Studio Tamani, voici les informations en français.
Vous êtes à l'écoute de Studio Tamani, il est 8h, bon réveil matinal à tous. À la une de l'actualité, la suspension des activités des partis politiques et associations a été levée. L'information a été donnée hier par le gouvernement en Conseil des ministres. Dans la vie courante, chacun a presque des surnoms dérivés parfois des prénoms d'origine. Quel rôle ces surnoms jouent dans la consolidation des relations? La réponse dans cette édition. Le monde célèbre ce jeudi 11 juillet la Journée mondiale de la population. Au Mali, cette journée intervient à un moment où la population reste confrontée à plusieurs défis dont l'hygiène et l'assainissement. Assitou Kanté est à la présentation de cette édition. Gagne Kanté assure la technique. Bonjour et bienvenue. Tout d'abord, cette information. Le gouvernement vient de lever la suspension des activités des partis politiques et associations. L'annonce a été faite hier en Conseil des ministres. Selon les autorités, cette suspension avait pour but la sauvegarde de l'ordre public et l'organisation sérène du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale sur toute l'étendue du territoire. Pour rappel, les activités des partis politiques et associations avaient été suspendues le 10 avril dernier par le gouvernement. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Au Mali, les prénoms traditionnels ne se limitent pas souvent à leur forme officielle. Ils s'accompagnent de surnoms affectueux ou familiers qui témoignent plus souvent des relations sociales. Ces surnoms, parfois dérivés des prénoms d'origine ou influencés par des considérations sociales et linguistiques, ont aussi leur rôle dans le fonctionnement de notre société. Reportage de Ramatou Aïdara.
Pour de nombreuses personnes, les petits surnoms sont un signe d'affection et de proximité, d'où leur attachement à ces appellations. C'est le cas d'Ousmane que ses proches appellent Ozo et de Moussa qu'on appelle Bala.
Ceux qui m'appellent Ozo, ce sont mes amis.
Bon. Tout le monde m'appelle Bala. Ces surnoms, je l'ai hérité de mon grand-père dont je suis l'homonyme.
Ces surnoms sont bien plus que de simples raccourcis dans des contextes où les noms traditionnels sont généralement longs ou complexes. Ils offrent une alternative pratique pour la communication quotidienne. Mais le sociologue Tchéfin Sissoko met en garde contre l'usage de ces surnoms à long terme.
J'ai vu beaucoup de combats de personnes qui ne souhaitent plus qu'on les appelle papou, un chef de famille qu'on va appeler papou, vous voyez bien la conséquence.
Les surnoms servent aussi à distinguer les individus portant des noms similaires. Toutefois, le traditionnaliste Ben Chérif Diabaté indique que cette pratique n'a pas de racines traditionnelles.
La culture occidentale, on peut dire rose, c'est un petit nom qu'on dit, que ce soit amical ou bien affectueux, mais ça n'a pas de lien avec la tradition.
Les petits surnoms dérivés des noms officiels reflètent une partie importante de la manière dont les individus interagissent et s'identifient à la société.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook, notre compte X. Une vingtaine de guides touristiques sont en formation depuis hier à Bamako. Ils sont venus de l'intérieur du pays, du Niger et du Burkina Faso. Cette session de 4 jours vise à échanger non seulement sur les missions du guide de tourisme, mais aussi sur les défis du métier. La rencontre est initiée par le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme avec l'appui financier de l'Organisation de la coopération islamique. Reportage de Mahaman Babakunta.
Les principales tâches d'un guide de tourisme, la relation du guide avec les différents acteurs de l'écosystème, ce sont entre autres quelques modules qui seront abordés au cours de cette session. Andogoli Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme.
Cette formation va apporter un peu de souffle à ces infatigables acteurs du tourisme. Très bientôt, le tourisme au Mali, au Burkina Faso, au Niger, va connaître une relance.
Selon Mme Cissé Fatoumata Kouyaté, présidente de l'association des agences de voyage et du tourisme, les guides et leurs employeurs attendent impatiemment la relance des activités.
Nous avons besoin que les différents prestataires de services, acteurs du tourisme, soient au bon niveau. Nous accompagnons le ministère du tourisme dans cette activité de renforcement des capacités et nous exhortons les guides à faire en sorte qu'ils puissent vraiment suivre fidèlement, d'en tirer le plus grand bénéfice pour vraiment la relance du tourisme.
Après ces échanges théoriques, un voyage de simulation sera organisé à Sibi avec l'ensemble des participants, promettent les organisateurs.
8 heures passées de 5 minutes. Autre sujet, au Mali, plus de 330 000 déplacés internes et 288 000 réfugiés ont été recensés au mois de mai dernier. Ces chiffres ont été donnés dans un rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires publié en fin juin dernier. Les régions les plus touchées par ces déplacements des populations sont Taoudéni, Gao, Mopti, Tombouctou, Badiangara et Douanzan. Selon le document, les affrontements entre groupes armés non étatiques et les attaques contre les civils sont les causes de ces déplacements. Ousmane Nyalibouli.
Selon les rapports de l'OCHA, 330 713 personnes sont déplacées à l'intérieur du Mali, soit 87 623 ménages. Mais par rapport à décembre 2023, une diminution de 24 026 personnes déplacées a été constatée. Les documents précisent que cette légère réduction du nombre total de déplacés est attribuée à l'utilisation de la biométrie et à l'amélioration progressive de la situation sécuritaire dans certaines localités du centre et du nord du Mali. Les baisses les plus significatives sont observées dans les régions de Tombouctou, Mopti, Koulikoro, Koutiala et Taoudéni. Par ailleurs, une augmentation de 6% du nombre de personnes déplacées internes retournées dans leur localité d'origine a été enregistrée à l'échelle nationale avec 54 456 retours supplémentaires recensés en comparaison au rapport de décembre 2023. En ce qui concerne les réfugiés, en cette période, on indique aussi que la Mauritanie a accueilli 119 354 réfugiés maliens et le Niger 130 380 contre 110 000 et 125 000 en mai 2023.
Je vous l'annonçais dans les titres, la journée mondiale de la population est célébrée chaque 11 juillet. Au Mali, la journée sera célébrée le 18 juillet prochain. En attendant, la population malienne est confrontée à des défis comme l'insécurité, l'hygiène et l'assainissement, le manque d'infrastructures socio-sanitaires. Selon le sociologue Amaguindo, pour en finir avec les inégalités, il faut la paix et la prospérité. Il est joint par Fatoumata Kodjo.
Ces défis sont nombreux. L'insécurité qui touche la population malienne de façon directe ou indirecte, l'instabilité politique que vit le pays depuis un certain temps, nous avons la cherté de la vie, la coupure incessante de l'électricité qui handicape les centres urbains de façon générale. Pour l'épanouissement de la population malienne, il faut d'abord la sécurisation de toute l'étendue du territoire national, c'est-à-dire la sécurisation des personnes et de leurs biens, en appuyant sur l'effort fourni par les forces vives de la nation pour le retour de la paix dans notre pays. Il faut développer également les infrastructures de base, les secteurs éducationnels, la santé, les routes. De même, les secteurs primaires, il faut développer l'agriculture, l'élevage, la pêche et former les jeunes aux nouveaux besoins de la modernité, c'est-à-dire les nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Dans la rubrique Zoom sur du jour, notre chroniqueuse nous parle de l'attitude des vieilles personnes dans la circulation et en famille. Et c'est avec Amsetou Touré.
À moto ou à véhicule, il n'est pas rare de croiser des vieilles personnes rouler fièrement au beau milieu des routes sans se soucier des autres usagers. Pour elles, tout est permis et impossible de klaxonner sans être traité de mal éduqué. Et quand tu te plains, voici leur réponse. « Depuis que tu n'es pas né, moi je conduis hein ?» Ou encore « J'ai obtenu mon permis de conduire en telle année. » Korotouma en sait quelque chose. Ce jour-là, en pleine circulation, une voiture s'engage devant elle sans au préalable s'assurer qu'il n'y a personne. Furieuse, Korotoumou s'apprêtait à réprimander la personne, mais elle s'aperçoit que c'était un vieil homme. Et c'est elle qui se fait réprimander par le vieux. Entendez par là, les enfants de maintenant ne respectent personne. Notons que ce n'est pas qu'en circulation, c'est la même chose en famille. Enfin, il faut juste comprendre que la vieillesse est une période complexe. Être patient envers ces personnes est important, car le jeune d'aujourd'hui est le vieux de demain.
Tout à fait, Amsetou, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter gratuitement ce journal et le magazine qui va suivre en appelant le service Kounafoni au 37 321. C'est gratuit, vous devez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Ne décrochez pas, vous aurez après le magazine la version Bambara de ce journal, une présentation de Aissata Diarra.
À vous parents, papa et maman, ces messages vous est adressé.
Vous devez avoir les réflexes de déclarer votre enfant dès sa naissance. Votre enfant doit avoir un acte de naissance.
Déclarer un enfant à la naissance est un acte de grande importance et un geste de bon citoyen.
Déclarer un enfant à la naissance est le premier des droits de cet enfant, puisque c'est ce droit qui ouvre l'accès à tous les autres.
Sans acte de naissance, votre enfant n'existe pas devant la loi.
La délivrance d'un acte de naissance est gratuite à la mairie.
Si les parents ne déclarent pas l'enfant à la naissance, il ne pourra pas aller à l'école plus tard.
Si les parents ne déclarent pas l'enfant à la naissance, il ne pourra pas bénéficier des programmes de santé. Il sera exclu de bien d'autres avantages encore.
Sachez également que les parents ont un délai maximum de 1 mois, c'est-à-dire 30 jours pour déclarer la naissance de leur enfant.
Passé ce délai, il faudra recourir à un jugement supplétif qui peut prendre plus de temps et d'argent.
Déclarer son enfant à la naissance, c'est lui donner un bon départ dans la vie.
Ceci est un message de la Direction nationale de l'État civil en partenariat avec l'UNICEF grâce au soutien financier de l'Agence italienne pour la coopération au développement.
Depuis le mois de juin, certaines régions du pays ont reçu les premières pluies. L'installation de la saison entraîne son colère de maladies, surtout après l'apparition des herbes et des moustiques. Selon les spécialistes de la santé, les maladies parasitaires et respiratoires sont très fréquentes chez les enfants et les adultes. Dans ce magazine Santé Focus sur ces pathologies, c'est une réalisation de la Letangara.
De nombreuses mamans témoignent qu'en cette période d'hivernage, les enfants souffrent de plusieurs pathologies. Certaines affirment qu'elles ont constaté chez leurs enfants un changement de température, qu'ils ont souvent de la fièvre. Elles sont de Massina, de Kalana et de Mopti.
En ce début d'hivernage, il y a beaucoup de moustiques qui provoquent les petits boutons sur le corps des enfants. En plus, les enfants sont très sensibles et allergiques à cela.
J'ai constaté sur le corps de mon enfant beaucoup de boutonnets et de petites maladies avec des fièvres. Selon moi, c'est à cause du changement climatique, car on vient de rentrer dans l'hivernage.
Mes enfants tombent malades souvent pendant l'hivernage. On s'en va à l'hôpital pour prendre des pommades et puis des sirops. On les donne. Et souvent même, on traite avec les médicaments traditionnels.
Docteur Amadou Bejara, spécialiste en santé communautaire et comportementale, met l'accent sur le paludisme pendant la saison des pluies. Selon lui, les moustiques se multiplient à cause des eaux stagnantes.
Pendant l'hivernage, nous avons beaucoup plus de cas de paludisme et cela s'explique par 3 choses. Première chose, ça dépend d'abord du cycle de vie des moustiques. Et la deuxième cause, c'est le climat. Et la troisième cause, ça c'est les conditions d'hygiène et de salubrité dans nos communautés. Les moustiques se multiplient pendant la période hivernale et pendant l'hivernage, il y a de l'herbe partout et c'est les lieux de cachette pour les moustiques.
Ce n'est pas que le paludisme qui fait des dégâts en cette saison pluvieuse. Il y a aussi les maladies de peau, notamment le prurigo, qui se caractérise par des lésions cutanées provoquant des démangeaisons. Cette maladie est causée par des piqûres d'insectes. Docteur Tera Tenin-Karambe, dermatologue au CHU Gabriel Touré.
Les insectes piquent les enfants, surtout les endroits qui ne sont pas protégés par les habits. Donc, ces piqûres d'insectes démangent, ça provoque un bouton, 2 boutons, plusieurs boutons. L'enfant gratte. Et le bouton prend de l'eau, souvent il y a des plaies qui surviennent après. Donc ce n'est pas en fait de voir les eaux usées ou bien d'autres choses qui provoquent ces phénomènes. C'est les piqûres d'insectes qui provoquent ça, généralement chez les enfants.
Docteur Amadou Bejara, spécialiste en santé communautaire, indique que les piqûres de moustiques ont des conséquences chez les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans. Mais il donne quelques conseils de prévention.
Conseiller aux gens de dormir sur les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Il faut mettre les grillages au niveau des portes et des fenêtres. Il faut désherber les cours. En plus de ça, nous conseillons à toute femme enceinte de faire la consultation prénatale. Depuis le 4e mois, on donne un médicament qu'on appelle SP qui permet de protéger la femme enceinte et son enfant. Il y a les campagnes de chimio-prévention contre les paludes et c'est destiné aux enfants de 0 à 5 ans.
Au sein de la population, beaucoup optent pour un traitement traditionnel pendant cette période. Hassan Damele est tradithérapeute à Ségou. Elle affirme que les plantes de traitement contre le paludisme sont plus demandées en ce moment.
Actuellement, ce sont les médicaments contre le palud qui marchent beaucoup. Nous donnons des médicaments traditionnels aux patients pour les soulager.
Les spécialistes de la santé conseillent à la population le désherbage, l'hygiène et aussi de dormir sous des moustiquaires imprégnés. La dermatologue conseille aux mamans de faire porter aux enfants des habits de manches longues, aussi de couvrir les membres supérieurs des enfants.